10 années hors normes, le podcast. À l'occasion des 10 ans d'hors normes, nous avons souhaité revenir sur des moments qui ont marqué la vie du magazine. Entre anecdotes et temps forts, Jean-Luc Fournier, le directeur de la rédaction, nous emmène dans les coulisses et revient sur ces 10 années hors normes. Bonjour Jean-Luc Fournier.
Bonjour Lisa.
Tu es le directeur de la rédaction d'hors normes depuis 10 ans et encore à ce jour. Mais tu es surtout le fondateur du magazine et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, puisqu'on va retracer ensemble, à l'occasion de cet anniversaire, l'histoire et les conditions de la création du magazine. Parce qu'avec un titre comme ça, hors norme, on se doute bien que l'histoire l'est aussi un petit peu.
L'histoire est longue maintenant. C'est une agence de presse d'abord, qui se crée en 1999. Avant ça, j'étais à Mulhouse comme directeur de la communication du football club de Mulhouse, connu dans la région donc pour le football, mais personne ne savait que j'avais été un journaliste. J'ai inauguré les radios en 1980, les radios locales.
Et vous étiez même instituteur avant ça.
J'étais même instituteur, il n'y a rien qui t'échappe, Lisa. Oui, tout à fait, ça part, c'est les chemins de traverse, quoi. Je suis arrivé là par les chemins de traverse.
Chemin de traverse, c'est une expression que vous utilisez dans tous vos premiers éditos. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que je crois qu'il y a une petite anecdote.
Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai toujours expérimenté les choses de façon peu conventionnelle, hors norme, quoi, bien sûr. Et je me rappelle tout de suite, comme anecdote, que dès 1980, à l'époque où Mitterrand avait libéré les radios locales, ma toute première radio locale, j'en ai monté plusieurs, avait été inaugurée le matin même du tout premier jour, à 6h30, la première chanson qu'on avait entendue, c'était la chanson de Francis Cabrel, Les Chemins de Traverse, qui est une chanson d'un de ses tout premiers albums. Et ça marque bien les choses. J'ai toujours voulu marquer ces choses comme ça. Hors norme est donc né dans le cadre d'une agence de presse qui a fonctionné depuis 1999 à Strasbourg. J'étais associé au niveau de cette agence, l'agence de presse ASP, agence strasbourgeoise de presse, et qui a développé des activités parce que j'avais déjà dès le départ ce projet de créer un magazine comme ça. J'avais repéré dans le paysage strasbourgeois qu'il manquait, que ce créneau n'était pas pourvu. Strasbourg a une riche vie culturelle, dans tous les sens, et pas que culturelle, bien entendu, qui méritait un magazine tel qu'est devenu hors norme. J'avais cette idée-là, mais bien entendu, ça coûte cher de lancer un magazine comme ça. Et cette idée-là, je l'avais dès le départ. On a fait prospérer cette agence de presse, peu connue au départ, si ce n'est les matinales de l'Art Café à Strasbourg, et avec en collaboration avec le Club de la Presse et Michel Bure à l'époque. Et
qu'est-ce qui a accéléré d'un coup la création de ce magazine ?
Qu'est-ce qui a accéléré la création de ce magazine ? Moi, quand j'ai un rêve, il faut que je le réalise. Je suis bâti comme ça, fondamentalement, depuis toujours. C'était un rêve, et j'avais 46 ans quand l'agence de presse s'est créée. C'est bien entendu un âge déjà un petit peu avancé pour faire des choses. Hein. On a encore du temps, mais il ne faut pas traîner. Hors norme était un rêve, j'ai absolument voulu le réaliser. Et en 2008, quand j'étais en situation de le réaliser, c'est-à-dire que l'agence avait déjà 9 ans derrière elle, on avait accumulé quelques argent pour pouvoir supporter le coût de lancement d'un tel magazine, la crise financière est arrivée avec une brutalité inouïe en 2008 et nous a contraints à freiner nos ardeurs. Ça aurait été suicidaire de se lancer. Et puis, comme cette crise n'arrêtait pas, en 2009, j'ai dit, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, ce magazine sortira. Et tant pis, si ça ne marche pas plus que ça.
Donc, hors norme, un magazine qui naît en pleine crise financière et qui fête maintenant ses 10 ans en pleine pandémie. C'est original. D'où vient ce nom, hors norme ?
En fait, ça vient du Haut-Rhin. Et c'est drôle parce que quand l'agence a démarré, aux alentours de 2006, Philippe Roach, qui était à l'époque le président directeur général du groupe PAM, filiale du journal d'Alsace et le même filiale du Crédit Mutuel déjà. Philippe Roche voulait, le PAM est un très grand magazine qui est édité à 350 000 exemplaires sur le Rhin, le magazine classique, petites annonces, pubs, toutes les semaines dans les boîtes aux lettres, une audience phénoménale, mais qui commençait déjà à décliner parce que les gens, pubs plus petites annonces, ça marchait déjà pas, Internet prenait quand même déjà de l'envergure. Et Philippe a voulu créer des pages, un intérêt de lecture pour le PAM. Dans un premier temps, il a demandé à notre agence d'assurer la publication hebdomadaire de 3 pages. C'était un gros boulot, toutes les semaines. Vrai boulot de rédaction. Et puis ça a marché, et il s'est aperçu que ça pouvait se décliner sur d'autres publics, et il voulait absolument un magazine pour aller toucher un public CSP+, que le PAM ne pouvait pas toucher. Et on a créé un magazine qui s'est appelé Hors Normes, qui était peu de gens le savent, hein, qui était prototypé dans le Haut-Rhin, enfin qui n'avait rien à voir avec à la fois le nombre de pages, de dos carrés, tout ça n'existait pas.
Qui ressemblait pas du tout donc à ce qu'on a aujourd'hui entre les mains.
Non, absolument pas. Mais le titre a été trouvé conjointement avec son directeur commercial. Tout le monde demande d'où ça vient ce titre, hors norme, ouais. Ben, tout simplement, c'est le positionnement du journal, CSP+. On s'adresse à des annonceurs qui ont les moyens de payer un magazine tel que celui-là, enfin de paraître dans un magazine tel que celui-là. Le hors, ben, c'est le signe distinctif de la préciosité.
C'est écrit OR, donc.
OR. Et hors norme, ça veut tout simplement dire, c'est le ton général. Moi, je suis incapable de faire des choses qui sont dans la norme, donc hors norme, ça s'imposait.
Alors, retour juste avant la création de ce numéro 1. Alors, j'imagine que là, on passe par plein d'étapes, les études de marché, les doutes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période pour nous ?
Je m'étais entouré de ce que j'appelle les humeurs de ville, c'est-à-dire ceux qui sentent la ville. Moi, j'étais à Strasbourg depuis seulement 1999, hein, donc seulement depuis 10 ans. C'est déjà pas mal, mais en 10 ans, on peut pas prétendre connaître toute la ville. Il y a des gens qui sont nés ici, il y a des gens qui ont toujours œuvré ici, et qui m'entouraient déjà, dont mon ami Michel Gomez, architecte, malheureusement disparu aujourd'hui, mais qui a été quelqu'un de considérable dans la naissance d'Ornum. Je me suis entouré de ces humeurs de ville, de ces gens qui sentent la ville. Et tout simplement pour fabriquer une ligne éditoriale, pour savoir quel point méritait d'être recensé d'Ornum, quel point méritait au moins au début d'être l'objet d'une impasse parce qu'on peut pas tout faire, etc. Donc on avait bien prototypé ce magazine. Je parle de Michel Gomez parce que il a joué un rôle tout à fait particulier. Il m'a aidé, il m'a fait rencontrer plein de gens à l'époque où on travaillait sur des numéros zéro, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on n'avait même pas encore de date, hein, de lancement. Et l'ironie malheureuse de la situation fait que j'ai beaucoup travaillé avec Michel, qui était mon meilleur ami, et Michel nous a quittés brutalement un soir d'été, le soir de mon anniversaire. En Corse.
Et tu lui rends hommage d'ailleurs dans le premier numéro, juste derrière ton édito. Ouais,
avec une page spéciale, oui. Michel n'a jamais vu le premier numéro, bien entendu, alors qu'il avait tant aidé, tant collaboré à ce qui se passe. Il nous a quittés le 10 août 2010 et le premier numéro d'Ornum est sorti le 1er décembre de la même année. Donc il n'a pas vu le premier numéro du magazine.
Et genre, je parle de ton édito, puisqu'en fait, tu poses très clairement un peu les bases d'Ornum, cette ligne édito, qui est d'informer et de faire bouger les lignes à Strasbourg. Et ça, c'est vrai que c'est un discours qui, aujourd'hui, n'a pas changé, finalement.
Ben, je crois que c'est la pérennité de la chose est là, quoi. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui existait avant Ornum à Strasbourg ? On va pas rentrer dans la distribution des bons et des mauvais points, c'est pas du tout le but, mais moi, je suis un journaliste avant toute chose. Donc, un magazine fait de la presse, il fait pas de la communication. Et Ornum n'a jamais été un magazine qui prétendait faire du publi-reportage ou quelques vagues articles comme ça, un petit peu écrits à la va-vite pour boucher les trous entre les pubs. Ça n'a jamais été notre but, ça. Hein.
C'était... Parce que pour un magazine gratuit, on peut avoir l'image justement de.
Ben c'est ce que j'ai voulu
plus léger.
Casser. C'est ce que j'ai voulu casser. Si on est là 10 ans plus tard, encore toujours, comme tu l'as dit, sur ce même concept. C'est parce que je pense que justement, c'était pas trompé depuis le début et qu'il y avait un vrai besoin d'informer. Presse gratuite ne veut pas dire rédactionnelle de très mauvaise qualité ou rédigée à la va-vite. On peut faire un vrai travail de journaliste. On l'a encore prouvé lors du numéro de décembre dernier sur l'Europe, là où on a sorti un dossier sur le Parlement européen qui a beaucoup fait parler de lui. On fait du travail de journaliste. C'est pas parce que le magazine est gratuit qu'on doit pas se comporter en tant que journaliste. Chez nous, la pub, c'est un secteur bien particulier qui finance exclusivement le magazine et qu'on a immensément de respect pour ça. Mais pour le reste, on fait pas de la com. On fait du journalisme. C'est complètement différent.
Et alors, qu'est-ce qui fait que d'un coup, en pleine crise économique, bah, tu appuies quand même sur le bouton en disant, bah, allez, on y va, quoi?
Bah, tout simplement parce que je me suis dit que si on n'y allait pas, on n'y irait jamais. J'ai compris, on a compris, on était plusieurs à comprendre bien entendu, et pas seulement Ornum, que cette crise financière de 2008, tout le monde appelait ça la crise financière, mais moi j'avais compris quasiment dès le départ que c'était pas une crise financière parmi d'autres, c'était the big one, comme on dit, c'est-à-dire le gros séisme et qu'on allait traîner ça ad vitam aeternam. On n'en est toujours pas sorti aujourd'hui d'ailleurs, entre parenthèses. Et je me suis dit non, mais c'est quand même pas les financiers, Wall Street et tout le bazar qui vont m'empêcher de vivre mon dernier rêve professionnel, enfin mon dernier gros rêve professionnel en tout cas, qui était la création de ce magazine. Donc à un moment donné, j'étais persuadé que ça ne remarcherait pas facilement, qu'on n'en sortirait pas si facilement que ça, et donc j'ai lancé le magazine. Je me suis dit, bon, au départ, allez, un trimestriel, de toute façon, pour l'installer, il faut un an minimum pour avoir une forme de notoriété, parce qu'évidemment, le titre, il faut qu'il ait sa notoriété, mais un trimestriel, il apparaît que tous les 3 mois dans la lumière, donc il faut longtemps, quoi. C'est pas comme un hebdo ou comme un mensuel, même. Et je me suis dit, si on se trompe pas sur le truc et qu'on tient bon, j'avais quelques, on en parlera un peu plus tard dans ces émissions, mais j'avais quelques soutiens financiers déjà, qui en termes publicitaires, en termes de ressources, qui étaient là. Je me suis dit, allez hop, on y va. Et puis, ma foi, si on fait 4, 6, 8 numéros, j'aurais quand même vécu mon rêve et tout ira bien. On fête bientôt le numéro 40. On a fêté le numéro 40 puisqu'on parle comme si on était en avril déjà.
Et donc, d'où l'intérêt de frapper fort dès le premier numéro, un sommaire à constituer, une page blanche. Et ce sera l'objet de notre deuxième épisode. Merci Jean-Luc.
Merci Lila.